Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ravi de vous retrouver en ce vendredi 90 minutes info, vous en avez l'habitude. Commence juste après le rappel des titres, c'est avec Somaïa Labidi, bonjour.
Fresnes, deux hommes arrêtés après un survol de drone au-dessus de la prison. Les deux individus ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi et sont soupçonnés d'avoir remis des colis dans la prison. Une enquête a été ouverte, précise le parquet de Créteil. Blocage des sites porno en France, la justice a décidé de reporter sa décision. Ce devait être le jour J pour les sites X, mais le tribunal judiciaire de Paris préfère attendre les conclusions du Conseil d'État sur un recours contre le décret qui impose une vérification de l'âge des visiteurs. Au total, 5 sites pornographiques sont dans le viseur de la justice, dont les leaders du secteur Pornhub, Xvideo ou encore Xhamster. Et puis ce chiffre pour terminer, plus de 230 noyades accidentelles, dont plus de 80 mortelles sont survenues en France les 4 premières semaines de l'été. Une annonce de Santé publique France qui insiste sur l'importance de la prévention à l'orée des vacances scolaires. Chaque année, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1000 décès dans le pays.
Aujourd'hui, nous parlerons de ce sondage Opinionway, la suite et fin de notre sondage Opinionway qui montre que 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités politiques aujourd'hui n'est capable, n'est en mesure de gérer la situation. On verra que le fossé se creuse de plus en plus.
On voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, on a déjà observé depuis de nombreuses années, est toujours aussi large et peut-être qu'il se creuse encore.
Robert Ménard a donc refusé ce matin de célébrer une union entre une Française et un homme sous OQTF. Il soupçonne un mariage blanc. Explication de l'intéressé.
Non, je ne vais pas le marier. À un moment donné, c'est un cirque. Enfin, on ne va pas demander au maire de faire le sale boulot, si j'ose dire. Ce garçon, normalement, il aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en Algérie.
Enfin, beaucoup de nos représentants politiques en conviennent. Les parents devront rendre des comptes pour les agissements de leurs enfants mineurs lors des émeutes. Analyse des formes que cela pourrait prendre dans ce débat à suivre.
La justice a un regard toujours très, très individuel sur la situation. Mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue, il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi? À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Les sanctions, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mais on va être très clair. Quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits. Et bien nous avons aussi des devoirs.
Et l'édition du vendredi accueille Céline Pina. Bonjour.
Bonjour
Céline, merci d'être là comme souvent en fin de semaine en notre compagnie. Bonjour Sabrina Medjeber.
Bonjour.
Ravie également de vous retrouver sur ce plateau, ainsi que Raphaël Steinville.
Bonjour.
Je vous le disais à l'instant, ils sont nombreux les politiques à avoir pris la parole après les émeutes qui ont éclaté depuis la mort de Naël. Ça n'a pas été forcément très payant, puisque un sondage Opinionway qu'on vous a déjà dévoilé en partie en milieu de semaine montre qu'aujourd'hui, une grande majorité des Français estiment qu'il n'y a aucune personnalité politique qui n'est vraiment qui soit vraiment à la hauteur de la situation. Vous le voyez sur la colonne rouge sur la gauche de l'écran. Le détail résumé par Geoffrey Defevre et Sarah Varni.
Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion. Les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça ce qu'il faut faire.
Marine Le Pen, c'est une femme populaire et qui, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de choses vraiment très importantes. Hein.
En tête du sondage Opinionway, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivie de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouve en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
Sabrina Medjugorje, c'est le premier parti de France. On dit souvent, lors des échéances électorales, les abstentionnistes sont le premier parti de France. Là, c'est le parti du « personne n'est à la hauteur », en fait.
Personne n'est à la hauteur.
Un tiers des Français.
Oui, bien sûr, et c'est un sentiment qui est partagé par les Français depuis à peu près 40 ans. En réalité, Nelly, face à ces problématiques, concernant les émeutes, c'est clairement le déphasage entre les élites et le peuple. Et lorsqu'on voit les émeutiers, l'action politique et violente des émeutiers, c'est clairement un règlement de compte social. Donc face à cela, quand il n'y a pas de réponse politique à la hauteur, évidemment les Français cherchent une réponse, et la réponse, ils ne la trouvent pas. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron ou le gouvernement d'Elisabeth Borne ne peut pas payer la facture de 40 années d'abandon, de laxisme, de déflagration culturelle, d'offensives islamistes et d'autres, malheureusement, phénomènes sociétaux que l'on observe grandissant dans la société française. C'était bien avant qu'il fallait justement faire preuve du devoir d'assimilation et de faire en sorte qu'il y ait un devoir de ressemblance et non pas un droit à la différence. C'est à partir de ce terreau-là que se sont cultivées les multiples conquêtes. Et c'est entre autres la raison pour laquelle on a assisté aujourd'hui, mais ça s'explique par d'autres phénomènes anthropologiques bien plus profonds. C'est pour ça que le politique aujourd'hui ne peut pas accorder ou donner une réponse aux Français tant qu'il n'y a pas un diagnostic culturel sur ces épiphénomènes sociétaux.
Alors, je vous propose d'écouter l'analyse qu'en tire Frédéric Michou. Il est le directeur adjoint de cet institut auquel nous avons fait appel. Il parle de ce fameux fossé. Lui aussi, il remonte aux années 80, hein, grosso modo.
On voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, qu'on a déjà observé depuis de nombreuses années, est toujours aussi large, et peut-être qu'il se creuse encore. Aucune personnalité, et pourtant nous en avons testé une quinzaine sur l'ensemble de l'échiquier politique, à gauche, à droite, dans la majorité, dans l'opposition, aucune d'entre elles ne recueille une confiance majoritaire. C'est dire à la fois le manque de portée de la parole publique, toutes les positions sont désapprouvées, et puis aussi une forme de discrédit généralisé de la classe politique, à nouveau, quel que soit le camp politique.
Raphaël Steinville, est-ce que certains d'entre eux, parce qu'on le voit bien dans ce classement, il y a aussi un fossé à l'intérieur même du classement, est-ce que certains paient aussi leurs outrances, leur prise de parole intempestive, des propos qui ont choqué parfois, je pense évidemment à plusieurs leaders de la gauche.
Rousseau. Oui, probablement.
Elle est vraiment dans tout bas du classement, à 2%. Hein.
Probablement, même c'est une évidence. Ce qui est frappant pour poursuivre la réflexion de Sabrina, c'est que j'ai l'impression vraiment que ce sondage, une fois de plus, met en exerce finalement la sécession démocratique. Les Français ne croient plus en la parole de leur politique. Et c'est vrai. Des plus outranciers d'entre eux, en l'occurrence ceux qui sont à l'extrême gauche aujourd'hui, mais il en va aussi de même de tous ceux qui sont peu ou prou aux commandes, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, parce que ça fait déjà de longues années qu'ils sont au pouvoir, et même Marine Le Pen et Bardella, qui jusqu'à présent n'ont jamais eu à affronter cette épreuve du pouvoir, souffrent déjà presque par ricochet de ce discrédit dans lequel on englobe toute la classe politique. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une chose qui peut peut-être sauver la classe politique ou quelqu'un qui doit se révéler, c'est à l'aune du courage. Aujourd'hui, je pense que les Français, ce qu'ils attendent d'un homme politique, c'est pas qu'il soit beau, c'est pas qu'il soit intelligent, c'est pas qu'il soit surdiplômé, mais c'est qu'il ait du courage. La situation actuelle telle qu'on la voit, et depuis des années, nécessite un homme ou une femme de courage, qui ne se dédie pas sur sa parole et qui aille en profondeur dans les sujets qui nous concernent.
Clairement, à leurs yeux, c'est une pina. Emmanuel Macron, ses ministres, n'incarnent pas cette forme de courage. Est-ce qu'il est allé assez loin dans son diagnostic, dans ses constats post-crise? On en parlait avec Gauthier Lebret cette semaine, qui me disait, au fond, le président ne sait pas par quel bout prendre le problème. On a l'impression qu'il n'a pas encore trouver la clé, ou même, voire même qu'il n'a pas compris ce qui se passait.
Le problème, c'est que si on parle de courage, celui qui en a totalement fait preuve d'une absence de courage, ça a bien été le président, parce que rappelez-vous la première séquence, il va jeter l'honneur du policier au chien, Et il va le faire parce qu'il espère éviter les émeutes. Il sait très bien ce qui risque de se passer. Résultat, il se déshonore et on a les émeutes. Comment voulez-vous derrière que les Français qui sont en demande de protection puissent croire dans la parole et dans l'action d'un individu qui se comporte comme cela? Donc de toute façon, il y a des raisons pour lesquelles personne ne fait confiance à Macron. Le fait qu'il n'a pas de parole et en même temps, ça se traduit par nous sommes en face de quelqu'un qui ne s'engage à rien, ou alors à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il laisse une porte ouverte derrière pour pouvoir se replier. Donc il n'y a pas le courage derrière lequel on peut investir. Et pourquoi ce manque de courage est très dangereux? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une contre-société en train de monter. Il y a des différences parmi les jeunes émeutiers, mais il y a une chose qui est monocorde, c'est le message qu'ils font passer à la France. Et ce message, c'est « vous êtes raciste, et comme vous êtes raciste, nous avons le droit de vous détruire, de vous attaquer, de vous piller, c'est légitime ». Et derrière, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui valide ce narratif-là. Or, ce narratif, il est angoissant pour le reste de la population qui se voit vouée aux gémonies, qui n'a pas l'impression d'être raciste, d'être fasciste, de ressembler à la caricature que ces jeunes font de la situation politique. Et du coup, vous avez deux France qui sont face à face. On est passé de côte à côte à face et on a des politiques qui font semblant de ne pas se rendre compte de tout ce qui se déroule sous leurs yeux.
Oui, parce que, restons sur cette notion de courage, c'est intéressant quand même que vous ayez soulevé ce mot. Avoir du courage, c'est aussi créer fatalement des mécontentements, quitte à entraîner une fracture encore plus grande. Est-ce que c'est ça, au fond, qu'ils craignent? C'est effectivement d'avoir cette France divisée en deux et qui ne peut plus du tout se réconcilier. C'est pour ça qu'on tâtonne et qu'on est toujours un petit peu en train de chercher la voie, sans qu'il y en ait une vraiment.
Lélie, ça fait des années que cela dure. C'est pas un phénomène nouveau, c'est pas une nouvelle inquiétude. Je veux dire, rappelez-vous les propos de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il les qualifiait de sauvageons. Il me semble que ce ne sont pas des propos qui datent de 2023. Ensuite, on a eu la racaille de Nicolas Sarkozy. Et maintenant, on a les émeutiers sous le gouvernement, ou en tout cas sous la houlette du président de la République. Donc non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je pense que Céline a tout à fait raison. Il y a un problème aussi de cécité idéologique par peur, justement, de réveiller en réalité le devoir d'être français. C'est ça dont ils ont peur. Parce que quand on cultive le terreau de la victimisation, repentance, droit à réparation, et qu'on accuse la France de tous les maux, évidemment, on donne l'impression que la France est un espèce de terrain vague où toutes les cultures peuvent réussir à conquérir petit à petit un bout, entre guillemets, de terrain et faire valoir leur système de valeurs. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est évidemment la facture de ces 40 dernières années d'ignorance, de cécité idéologique, d'abandon et de refus du devoir d'assimilation. Je rappelle qu'il s'agit quand même de notre tradition. Notre pays n'est pas un pays multiculturaliste. Notre pays est assimilationniste. Notre tradition est assimilationniste. Mon prochain, c'est mon semblable. Mon prochain, ça n'est pas le substrat d'une communauté. Mais malheureusement, comme on a abandonné notre devoir d'assimilation, on a laissé place à la communautarisation du tissu social, sachant qu'en soubassement, il y a des questions anthropologiques très importantes, dont notamment les modalités éducatives. Par exemple, dans la culture arabo-musulmane, où le garçon est sacralisé et la jeune fille est invisibilisée, ce qui donne énormément de pouvoir en termes justement d'impunité du garçon dans la cellule familiale, puis dans la rue.
Il y a ça, ça sent trop choc, évidemment, avec nos principes de base d'égalité.
Il y a la culture de l'adolescence, c'est-à-dire que les parents aujourd'hui ne sont plus capables d'être des adultes, mais ils se comportent comme des adolescents parce qu'ils veulent séduire leur progéniture plutôt que de leur intérioriser des interdits qui sont structurants et qui amènent justement une vie en commun, c'est-à-dire une vie avec la conscience de l'intérêt général. Vous avez le phénomène des réseaux sociaux. Enfin, tout ça se multiplie, mais en réalité, ce qu'il faut... Quand j'écoute la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, qui parle d'une France des devoirs, mais elle se réveille, Madame Sarah El Haïry? Enfin, ça fait 40 ans que cela dure. Aujourd'hui, c'est une facture qui est évidemment bien plus chaotique parce que c'est différent de 2005, vu que ça a touché comme ça immédiatement tout le territoire français. Mais enfin, je ne comprends pas comment se fait-il que les politiques n'aient pas encore parlé, indiqué, exprimé le mot assimilation. Je n'arrive pas à comprendre.
Parce que trop souvent, c'est traduit
par racisme. On a l'impression qu'il y a racisme. Alors du coup, voilà, il faudrait ménager les susceptibilités des communautés qui estiment, justement, comme disait Céline, qui sont en rupture avec la société française et qui se verraient...
C'est la politique de l'autruche qu'on est en train de payer aujourd'hui en Palestine.
Totalement. Et encore une fois, de l'absence de courage. Parce qu'en fait, les politiques sont très lucides sur l'état de la France. Ils savent pertinemment ce qui va et ce qui ne va pas. En privé, dans les salons feutrés des palais de la République, les discours sont autrement plus libres et sans nuance par rapport à la situation de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça me fait penser à Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, qui, dans le Figaro Magazine, ce week-end, livre à la fois... alors, il se hasarde à un diagnostic à chaud, et c'est pas dans sa nature de raisonner comme ça, mais pour essayer de comprendre les émeutes que l'on a pu vivre et les solutions qu'il faudrait envisager. Justement, il revient sur ces termes, sur l'assimilation, mais parmi les choses qu'il faudrait pouvoir faire, il évoque notamment peut-être la restriction ou peut-être même la fin du regroupement familial tel qu'il existe. Souvenez-vous, puisqu'on faisait un peu d'archéologie politique, le premier qui s'est essayé, c'était Valéry Giscard d'Estaing, après avoir mis en place justement cette politique de regroupement familial. Il a essayé de revenir en arrière, et c'était déjà impossible. Bon, en tout cas, il a cru que c'était impossible. Et à partir de ce moment-là, on a fait qu'accumuler des problèmes sans que jamais les politiques...
Ça, pour le coup, ça tombe pas du tout sous le coup de la loi européenne, enfin de la législation européenne. Est-ce qu'on peut avoir des
droits de l'homme?
Donc on n'a pas de prérogative en la matière. On n'a aucune prérogative en la matière.
On parlait de courage.
Donc on n'y arrivera pas si vous nous dites.
Mais il y a quelque chose qui est possible, c'est que vous pouvez tout à fait sortir, par exemple, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme et y revenir en mettant des clauses suspensives. Sauf que on est dans un pays tellement idéologisé que la simple perspective de faire ça pour retrouver une part de souveraineté sans quitter justement l'Union européenne serait vue et on instruirait un procès de Frexit. Ce qu'aucun politique ne veut, parce qu'aucun politique ne veut du Frexit et les Français d'ailleurs n'en veulent pas non plus. Donc le problème de ce pays, c'est que vous ne pouvez quasiment rien faire sans tomber dans des mises en accusation absolument délirantes, mais qui seront reprises par toute une sphère médiatique et culturelle qui est tenue par une forme de gauchisme culturel. Donc là, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on pose un diagnostic de sécession partielle, il faut obliger les gens à faire un choix. Ça peut l'être en supprimant la double nationalité. Vous choisissez à qui vous faites allégeance. Il est impossible d'appartenir à la fois à un système islamique qui refuse l'égalité entre les hommes, qui refuse les libertés fondamentales, et à un système français qui est construit sur la reconnaissance de ces facteurs-là. Vous ne pouvez pas obéir, entre guillemets, à deux maîtres qui sont en guerre. Donc, on demande un choix.
C'est ce que font les États-Unis. Quand vous devenez américain, vous renoncez à toute allégeance à un pays.
Et c'est très sain. On pourrait aussi, effectivement, suspendre le regroupement familial, mais ce qu'on pourrait peut-être faire de façon plus efficace, c'est suspendre le droit du sol. Autrement dit, estimer que l'acquisition de la nationalité, c'est de l'arbitraire d'un pays. À lui de choisir, il met des critères, mais à la fin...
Oui, mais tout cela restant soumis à l'Union européenne, à condition...
Non, pas la nationalité. Pour le coup, la nationalité, c'est vraiment...
Donc il y a quand même des domaines sur lesquels on a la main.
Il y a des domaines sur lesquels le droit du sol, on peut tout à fait agir. La question de la double nationalité, on peut tout à fait agir.
Après, électoralement, est-ce que ce n'est pas dangereux pour quiconque voudrait...
C'est dangereux pour qui investit complètement sur l'électorat des émeutiers. Donc il est évident que la LFI, ELV, y compris le PS, ne peuvent pas se permettre ce discours. Mais je ne comprends pas pourquoi LR, pourquoi LREM et d'autres n'ont pas ce courage-là.
Bah peut-être parce que le premier d'entre eux ne l'a pas, comme vous le disiez si justement tout à l'heure. Écoutons à nouveau Frédéric Michaud, sur LFI. LFI qui a perdu du crédit, nous dit-il, auprès de ses électeurs.
La gauche existe très faiblement dans l'esprit des Français. Et les électeurs de gauche, les sympathisants de gauche, ne suivent pas les personnalités de leur camp. Marine Le Pen peut s'appuyer sur ses électeurs, peut s'appuyer sur ses sympathisants. C'est la même chose pour Emmanuel Macron. C'est le cas très nettement pour les électeurs d'Éric Zemmour, les sympathisants de Reconquête qui font bloc derrière Éric Zemmour. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est seulement un électeur sur deux, un électeur sur deux qui a voté pour lui en 2022, qui aujourd'hui lui fait confiance pour trouver des solutions pour sortir de la crise. Ça dit bien une forme de désaveu.
Preuve que ce n'était pas du tout payant sur le plan électoral.
Son électorat, il est multiple. C'est-à-dire qu'à la fois, Mélenchon a été le candidat des banlieues, le candidat, je crois qu'à plus de 60-70%, les musulmans de France ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi, parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, des électeurs qui viennent d'une gauche plus traditionnelle et qui, s'agissant de villes comme Nanterre ou de la banlieue parisienne, qui ont subi ces émeutes, ne se retrouvent pas dans ce discours où Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse que d'attiser le feu et de pousser les émeutiers à commettre toujours plus l'irréparable.
Mais alors qu'est-ce qu'il cherche finalement Jean-Luc Mélenchon, à part une insurrection
permanente ? Il a cru que c'était les mêmes, je pense d'abord. Il a cru que son électorat était monolithique.
Il a dû confondre certainement.
Donc il a fait une erreur de jugement. Il y a un clientélisme qui a omis une partie.
C'est très juste, oui. Parce qu'effectivement, Raphaël le rappelait, hein, il a fait des scores mirobolants hein, dans les banlieues Jean-Luc Mélenchon, parce que justement il instille ce discours à la fois insurrectionnel, à la fois victimaire. Il est toujours en permanente opposition avec nos principes, nos valeurs, nos traditions, notre civilisation. Donc oui, il a réussi à agréger énormément de voix dans les banlieues. Je crois qu'à Nanterre, il a même quasiment fait plus de 60%, ce qui est assez mirobolant, grandiloquent. Mais le sujet, c'est que réellement, il s'est trompé de calcul parce qu'il pensait qu'en soufflant sur les braises de l'insurrection, il pensait qu'il allait certainement gagner en aura, en figuratif presque d'idole qui nous accompagne dans nos démarches violentes. Mais dans un même temps, non seulement les émeutiers ne sont pas politisés parce qu'ils ne se voient pas pour lui, Carlos Bilongo-Martins, vous savez, un des députés LFI qui avait été agressé
fait prendre un parti, ouais.
par l'un des émeutiers, souvenez-vous, eh bien, ils n'ont même pas pris la défense du député, ils ont préféré se ranger du côté des émeutiers, certainement parce que Jean-Luc Mélenchon a dû leur dire qu'il ne fallait pas, pour le moment, s'occuper du député. Et quand on regarde les scores, on observe aussi qu'il est en net décrue parce que la gauche elle-même, enfin la NUPES, pardon, je le disais ça encore ce matin dans le Figaro, elle commence réellement à se désolidariser. Je vais y arriver.
Oui, ça fait déjà plusieurs jours. Absolument. Hein, entre Fabien Roussel
qui a déclaré ce matin dans le Figaro qu'il souhaitait que Jean-Luc Mélenchon ne mène plus le paquebot. Fabien Roussel qui, pareillement, s'est désolidarisé de l'attitude absolument désastreuse de Jean-Luc Mélenchon. Donc petit à petit, ce qu'il espérait gagner en gloire finit par devenir résiduel et finir par accroître sa petitesse.
C'est trop tôt pour se projeter vers les européennes. Est-ce qu'on peut décemment penser que les Français, au fond, auront la mémoire courte peut-être d'ici là ? Un an, c'est long hein, comme échéance pour réfléchir à ce qu'ils veulent ?
Alors, j'allais dire, un an, c'est long comme échéance, mais sincèrement...
Je ne parle pas des sénatoriales parce que ce n'est même pas un scrutin très probant, et y compris pour LFI qui n'est pas engagé partout, mais...
Oui, ça c'est vrai, mais quand on voit ce qui s'est passé, la seule question qu'on se pose, c'est pas est-ce qu'il y aura une prochaine émeute, c'est quand aura lieu la prochaine émeute.
C'est vrai.
Donc ce qui vient de se dérouler sous nos yeux est un accélérateur de la violence urbaine et de ce type d'action, et il n'est pas dit qu'on ne se retrouve pas confronté à des explosions de violence sporadiques en fonction d'actualités locales, qui devraient remémorer quand même régulièrement aux Français dans quelle situation ils se trouvent. Ensuite, quand vous en appelez à ce point-là à la sédition et à la violence, à la fin, si vous n'êtes pas sanctionné pendant les élections, ça veut dire que votre stratégie n'est pas mauvaise, ça veut dire que vous avez dans le pays une partie de gens qui sont tellement en rupture avec notre sociabilité, avec notre idéal de société apaisée et de paix, que vous pouvez fonder quelque chose là-dessus. Et ensuite, si pour vous...
Visiblement, là, avec le sondage, on n'en est pas là, hein, du tout.
Ben, c'est ça. Mais si pour vous, la démocratie n'est qu'une option et que vous pensez que des minorités déterminées peuvent suffisamment déstabiliser un pays pour qu'à terme, ils finissent par vous retomber tout rôti dans le bec, vous pouvez être dans cette logique-là.
Alors, on s'interrompt quelques secondes. On viendra avec Noémie Schulz sur les menaces qui ont pesé sur l'avocat du policier mis en cause dans la mort de Naël. Maître Liénard était chez nous hier. Il porte plainte pour menace de mort. Noémie Schulz viendra nous expliquer tout cela tout à l'heure. 90 minutes info, le débat revient juste après. Le JT de l'excellent Simon Guélin. Bonjour Simon.
Bonjour Charney et bonjour à tous. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui devait avoir lieu aujourd'hui. Les futurs mariés sont pourtant arrivés à la mairie aux alentours de 11h. Mais le maire leur a expliqué qu'il ne célébrerait pas leur union. Les précisions de notre correspondante sur place, Stéphanie Rouquet.
Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11h. Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébreraient pas leur union. Puis, les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, est déjà condamné pour vol et agression, nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui, mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre ville ou même en Algérie, et qu'il reviendrait après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard, qui a refusé de les unir.
Et puis vous avez pu suivre cette cérémonie en direct sur notre antenne. Un hommage national a été rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a tenu un discours sur place. Et on va écouter un extrait de ce discours.
Démobilisé en août 1945, Léon Gauthier retourna à la vie civile. Il ne pensait pas être un héros. Il concédait un certain courage quand il avait fallu en avoir. Ce temps-là était passé. Il pouvait aspirer à ce dont il avait été privé, jeune homme, la paix. Ouvrier carrossier en Angleterre, Léon Gauthier travailla encore en Afrique avant de reprendre ses études de droit et de devenir expert automobile. Il était enfin un père tranquille.
De l'actualité, Clément Beaune annonce la mise en vente dès aujourd'hui de 200 000 billets intercités à 19 €. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs. On va écouter sur place le ministre des Transports. On écoutera plus tard le ministre des Transports, Clément Beaune. On poursuit ce journal avec un tout autre sujet, celui de la sécheresse et des restrictions d'eau qui s'étendent en France. Le manque d'eau ne concerne plus uniquement le sud de l'Hexagone. En Eure-et-Loire, le département a dû également mettre des mesures en place pour limiter sa consommation. Le sujet de Thibault Marcheteau.
Olivier habite près de Chartres, en Eure-et-Loire, et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème, c'est même lui qui a pris les devants.
On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, on n'a pas attendu effectivement qu'on ait une recommandation de la préfecture ou un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. On ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses, c'est vraiment gaspiller de l'eau.
La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet d'Eure-et-Loire a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
Concrètement, par exemple, c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, d'arroser tout ce qui n'est pas denrées alimentaires, c'est-à-dire potager. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale de remplir sa piscine.
Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque est tel que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines.
Allez, tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport sur CNews.
Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
Marseillais un jour, Parisien le lendemain. Lucas Hernandez, natif de Marseille, avait pourtant fermé la porte en 2018 à une potentielle arrivée dans le club de la capitale.
Je viens de Marseille, je suis Marseillais. Ça va être un peu compliqué d'aller à Paris, mais tout peut se passer dans cette vie, mais... Franchement, personnellement, je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, ça arriverait ça.
Le défenseur français devra rapidement prouver sur le terrain, lui, qui sera attendu par les supporters parisiens. En témoigne ce message du président du collectif Ultra Paris.
T'es pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir.
Lucas Hernandez n'a plus rejoué depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la Coupe du Monde au Qatar. Outre l'accueil du parc, son état de santé reste l'autre interrogation avant ce début de saison.
Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Elle a décidé de ne pas partir. Elle est toujours sur son siège. Vous avez beaucoup de chance. Vous retrouvez tout de suite, bien sûr, Nelly Denac. C'est la suite de 90 minutes info sur CNews.
J'ai décidé. Ai-je vraiment le choix? Merci beaucoup, cher Simon. Excellent week-end à vous. Elle est arrivée sur ce plateau. Elle aussi a décidé de nous rejoindre. Noémie Schuss, bonjour. On vous a sollicité parce qu'on va parler évidemment de l'avocat du policier mis en cause dans la mort de Naël, qui a été menacé et qui donc a décidé de porter plainte. Maître Lénard, qui était d'ailleurs chez nous hier.
Oui, Laurent Franck Lénard, qui est l'avocat de ce policier mis en examen pour le meurtre de Naël. Il reçoit depuis qu'il est l'avocat de cet homme beaucoup de menaces, mais des menaces qui ont pris une tournure assez grave, avec des menaces de mort reçues via les réseaux sociaux et via le site internet de son cabinet. Et donc il a effectivement déposé deux plaintes pour effectivement faire cesser ces menaces.
Alors, on va faire réagir les invités. C'est insupportable, évidemment, dans le contexte. On espère qu'il sera bien protégé, déjà. Hein,
on commence à s'habituer.
Et que la justice sera, là aussi, assez diligente.
Après, les chercheurs, les professeurs, les avocats, comme par exemple Thibault de Montbrial, qui est sous protection policière pour les engagements qu'il prend et le combat qu'il mène. Eh bien là, pareillement, l'avocat se fait menacer, dépose plainte parce qu'on le menace de mort et qu'il se peut que bientôt lui-même soit sous protection policière. Donc ça devient malheureusement récurrent dans notre société et visiblement ça n'a pas l'air d'alerter les pouvoirs publics sur ces questions.
On notera que dans cette affaire, les menaces paraissent pour l'instant unilatérales quand même, hein, Céline Pina.
On se posait la question du courage. Comment voulez-vous être courageux quand, dès que vous êtes courageux, vous vous retrouvez exposé dans ces situations-là et dans lesquelles personne ne reconnaît votre courage parce que vous mettez tellement en valeur la lâcheté des autres qu'on va continuer à expliquer quand même que si vous êtes menacé de mort, c'est peut-être aussi que vous dites des choses qui ne sont pas assez mesurées, c'est peut-être que vous jetez de l'huile sur le feu. Donc on a un véritable mouvement islamiste qui est un mouvement profondément totalitaire, violent, qui n'amène pas des lendemains qui chantent, mais au contraire des lendemains qui saignent. Et tout le monde s'aplatit devant. Et dès que vous essayez de vous tenir droit, vous devenez une cible. On peut comprendre. Et puis enfin, juste un point. La civilisation, vous savez à quoi on la voyait? On la voyait quand justement, par exemple, le pouvoir changeait de main et on n'assassinait pas tous ses opposants. On la voyait justement quand une opposition, un conflit ne dégénère pas en violence parce qu'il y a d'autres moyens de le régler. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même quand la justice passe, même quand, parce que là, le policier a été inculpé, on ne peut pas dire que la justice n'a pas fait son travail. Quelqu'un qui fait simplement son travail d'avocat...
Oui, parce que tout individu a le droit d'être défendu, c'est aussi un principe de base quand même dans notre société.
Et menacer de mort les gens, ça signifie qu'à un moment donné, vous n'avez plus peur de la puissance publique, qu'il n'y a plus d'exécutif et que, quelque part, la protection ne peut plus être assurée parce que la première personne qui se sent offensée a l'impression qu'elle peut abolir l'existence de celui qui...
Noémie,
c'est de la folie.
C'est d'autant moins malin qu'on a peu de doutes sur l'issue quand même de l'enquête. Généralement, on retrouve assez aisément via les réseaux sociaux.
Ceux qui pensent encore que l'anonymat des réseaux sociaux leur permet de dire ce qu'ils veulent, qu'on remonte assez facilement. Alors ça prend du temps, il faut des réquisitions, mais on finit par identifier les auteurs de ces propos et ils sont ensuite jugés et peuvent être condamnés. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour avoir fait certaines audiences, notamment dans l'affaire Mila, ce qui s'en était pris à la jeune femme, vous avez des personnes au profil, vous avez parlé d'islamisme, mais vous serez surpris de voir les profils des personnes qui parfois écrivent des menaces sur les réseaux sociaux. Ça va de la retraitée à un très jeune lycéen et qui vous disent « Ah mais j'ai jamais pensé qu'il irait le message, j'ai écrit ça comme ça, j'y ai pas... »
Une sorte de défouloir.
De pas penser aux conséquences, de ne pas penser que la personne effectivement pouvait s'inquiéter de ce qu'elle recevait. Et c'est assez intéressant à voir et inquiétant aussi. Quand on assiste aux audiences.
Raphaël, vous avez raison, mais je crois qu'il n'y avait que 8 personnes qui ont été dans le cadre du procès de Mila.
Il y a eu plusieurs salles, mais en tout cas,
ils n'ont pas pris en compte l'ensemble des personnes.
Il me semble aussi qu'ils avaient ciblé certaines menaces. Vous avez aussi tous les messages très désagréables, tous les messages. Je crois qu'il y avait les appels au viol, les appels au meurtre. Là, en l'espèce, j'ai eu Laurent Franck Lénard ce matin, il me dit qu'il a vraiment déposé deux plaintes pour cibler deux menaces très précises. Ouais.
Et comme si ça ne suffisait pas, je vous fais réagir dans un instant, mais vous allez voir, pour étayer un petit peu cette discussion, les collègues du policier également font l'objet de menaces. C'est ce que nous dit Tanguy Hamon du service police-justice également.
L'affaire de la mort de Naël se répercute sur les collègues du policier auteur du tir. En effet, selon nos informations, le fonctionnement de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine devient très compliqué. Les motards sont reconnus dans la rue, ils sont insultés, ils sont menacés. Pour éviter les risques, il leur a même été demandé d'arrêter les patrouilles et de ne sortir qu'en cas d'urgence. Il n'en reste de toute façon que très peu de policiers toujours actifs dans le service, puisque la quasi-totalité de la brigade a été mise au repos. Reste que les agents sont très inquiets. Certains ont vu leur visage être diffusé sur les réseaux sociaux. L'identité d'un policier a même été confondue avec celle du tireur. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour lui et sa famille.
Il y a ceci et il y a les autres aussi. Les exemples sont pléthoriques.
Mais ce qu'on voit, c'est que de fait, force ne reste pas à la loi. Mais ce qui peut être de temps en temps un peu gênant, c'est qu'on met en valeur des profils qui sont des profils divergents, mais j'allais dire qui sont des profils de prédateurs par opportunité. Cela existe, ils existeront toujours, et ils peuvent bien faire à peu près 40 ou 50% de la masse. Le problème, c'est qui donne une lecture de la situation, la répand et ensemence la tête de la moitié des neuneux qui vont après passer à l'acte de la menace. Et là, quand on regarde, les circuits sont identifiés. C'est-à-dire que dans le cas des policiers, vous avez des racialistes, autrement dit des gens proches du Parti des indigènes de la République qui voient tout par le prisme de la couleur de peau. Vous avez des réseaux islamistes et ceux qui donnent la lecture de la situation et qui la diffusent, eux sont identifiés. Après, les neuneux qui se défoulent sur les réseaux sociaux, là, effectivement, le cadre est bien plus large. Mais il faut quelqu'un pour donner une lecture et la justifier. Et le fait que la gauche justifie cette lecture ultra-violente, cette lecture qui met en cause la société et les policiers, explique ce qui se passe dans un deuxième temps. Ça ne vient pas de gens qui se réveilleraient un matin... qui, comme on se fait un bouton, insulterait un avocat.
Je le disais, les exemples sont légion, Raphaël Starville, parce qu'on a vu aussi que ça touchait d'autres professions, hein, ces expéditions punitives ou ces intimidations ou même ces agressions physiques. Ça a été le cas, je crois, pour un surveillant pénitentiaire qui a été carrément traqué dans une rue. Il y a ces mères de famille aussi qui sont fonctionnaires de police qui, hors service, ont été intimidés avec leurs enfants. Enfin, on pourrait en donner une dizaine d'exemples depuis 5-6 jours déjà.
Oui, c'est l'une des conséquences et c'est d'autant plus absurde. C'est-à-dire que, justement, à cette espèce de message véhiculé par un certain nombre de personnes à l'ultra-gauche qui voudraient que la police et les forces de l'ordre soient racistes, qu'il y a un racisme systémique dans la police et dans les forces de l'ordre, il se trouve que ce sont les institutions qui sont parmi les plus métissées de France. Donc il y a quelque chose de totalement absurde en plus dans le message qui est véhiculé. En revanche, ce qui est très inquiétant, effectivement, c'est de voir à quel point aujourd'hui, parce qu'ils se sentent tout permis, au-dessus des lois, les interventions qu'ils font jusque devant les commissariats, prenant en photo les plaques des policiers, les poursuivant jusqu'à leur domicile. Et ça, c'est vrai partout en France. Et ça, c'est très, très, très inquiétant.
Voir pour certains médias, très récemment, divulguant l'identité du policier et son adresse. Sabrina Medjeber, finalement, s'il se passe un nouveau drame, cette classe politique dont on parle depuis tout à l'heure devra en porter aussi la responsabilité en ayant agité en sous-main les esprits.
Oui, et puis elle va allumer des bougies, elle va dire que tout va rentrer dans l'ordre, que de toute façon de nouvelles mesures politiques vont être mises en œuvre, et puis bis repetita, on va assister à davantage de menaces, à davantage de passages à l'acte, comme disait Céline ou comme disait Raphaël, et puis ce sera sans fin, parce que de toute façon, dans ce pays, malheureusement, l'autorité n'est plus un cadre organisateur de la vie en société, on est dans le repli communautariste, on est dans le phénomène de phénomène de bande. Alors Noémie Schulz rappelle qu'effectivement la sociologie des personnes qui sont capables d'émettre des menaces, elle est plurielle. Évidemment, il n'y a pas de personne qui est spécifiquement capable d'assumer ses vindictes, ses vendettas, ses expéditions punitives. Mais tant qu'il n'y a pas de réponse politique ferme, là, j'ai encore appris par exemple que des hackers avaient réussi à trouver les adresses des magistrats. Voilà, pour dénoncer où se situent les magistrats. Donc, si vous voulez, avec l'appui des réseaux sociaux, les facilités qu'ont certains, Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Alors, quelle serait la réponse? C'est de mettre un policier devant chaque domicile de magistrat, chaque domicile de policier. Là, on entendait Aurélie Laroussi qui a été menacée parce que justement son adresse a été comme ça livrée au grand public. Elle a peur pour ses enfants. Enfin, où va-t-on? Le domicile de Vincent Jeanbrun qui est attaqué, la mère qui aujourd'hui ne peut plus marcher pendant trois mois, qui ne pourra plus marcher pendant trois mois. Enfin, on arrive aujourd'hui à une complètement ce qu'a appelé Emmanuel Macron, c'est une décivilisation. Mais pourquoi? Parce que si dès l'enfance les jalons de l'éducation ne sont pas posés, et notamment celui de la frustration et de la sanction, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ces débordements pulsionnels qui empêchent l'élaboration mentale, qui amènent des actes de barbarie tels qu'on les voit? C'est tout, en fait, tout est anthropologique. C'est un écosystème qu'il faut revoir en profondeur et analyser les causes, enfin les conséquences, pardon, c'est très bien. Mais il faudrait d'abord se pencher sur les causes. Et ça, il me semble que c'est très important.
Alors, vous parliez des magistrats. On y vient dans une autre affaire, puisque dans la nuit du 28 ou 29 juin, on en avait parlé d'ailleurs, la mairie de Mons-en-Barœul, c'est dans le Nord, avait été attaquée et incendiée par des individus, des personnes qui avaient été mises en examen, mais en raison d'un vice de procédure, elles ont été remises en liberté. Alors la nouvelle a beaucoup fait réagir. Regardez le résumé, Adrien Spiteri, puis on en parle avec vous, Noémie.
Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de Mons-en-Barœul en marge des émeutes, 9 personnes ont été mises en examen. 5 placés en détention provisoire. Problème?
Il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir, alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures. Des erreurs fréquentes selon cet avocat.
Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun, et on voit qu'à cause d'une erreur de plume, d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte? Le réquisitoire introductif, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh bien, c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc, du coup, on est obligé de tout refaire dès le début.
Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
Alors, Noémie, ça mérite peut-être une petite explication de qui émane la faute supposée. Et puis surtout, préciser quand même que la justice passera, hein, quoi qu'il arrive.
Oui, c'est effectivement une erreur très regrettable. C'est un magistrat du parquet qui a oublié de signer le réquisitoire introductif dans lequel il saisissait un juge d'instruction. C'est un oubli, je ne sais pas pourquoi. On peut imaginer que c'est sans doute parce que ces magistrats de tous les parquets de France ont depuis une semaine eu à gérer, enfin maintenant 10 jours,
un nombre
de procédures absolument énorme, et que effectivement, eh bien, il y a cette signature qui n'a pas été apposée. Le parquet général qui en a été informé a d'initiative saisit la chambre de l'instruction en demandant d'annuler le réquisitoire introductif. Pourquoi? Bien parce qu'il savait qu'il vaut mieux faire ça le plus vite possible, purger ce problème-là, plutôt que d'attendre et de prendre le risque que dans 6 mois, dans 1 an, au moment du procès, un avocat soulève ce point-là et il aurait pu obtenir
faire tomber
toute la procédure à partir du moment où il manque cette signature du réquisitoire introductif. Donc, quelles conséquences ça a? Ça a effectivement que les personnes qui avaient été mises en examen et placées en détention provisoire, eh bien, les mises en examen ont été annulées et donc elles ont pu sortir, mais elles vont y retourner en détention provisoire. Donc, en fait,
il faut que ça aille vite pour éviter tout risque de fuite aussi, ou de se soustraire à la justice.
Oui, alors... le risque de fuite. Après, vous prenez la fuite. Si quand on vous met la main dessus, vous allez partir en détention provisoire, et puis au moment du procès, ça va être d'autant plus sévère. Donc effectivement, on parle pas. Enfin, il y a un risque. Oui, c'est le problème. Effectivement, une personne qui a été placée en détention provisoire qui est remise en liberté, il y a un risque de fuite. Là, je pense qu'en l'espèce, ces personnes-là vont être à nouveau interpellées, mises en examen, placées en détention provisoire pour les 5, puisque les 4 autres avaient été placées sous contrôle judiciaire, et la procédure va reprendre son cours. Donc, je crois qu'il est vraiment important de dire que ce n'est pas parce qu'il manque une signature qu'en gros, ils vont rester impunis.
Oui, Raphaël, du temps perdu et que d'énergie perdue.
Et surtout dans le contexte actuel.
Ce n'est pas du laxisme.
Ouais, non, je sais bien. Ceci dit, je crois que c'était il y a un an, il y avait les états généraux de la justice.
Et j'ai le souvenir que c'était Béatrice Brugère qui parlait d'une justice en faillite. On en a un petit peu la démonstration. C'est-à-dire que les magistrats ne sont pas responsables de tout, mais le fait est que l'accumulation, et là dans le contexte, peut-être que ça vient aggraver une situation déjà très compliquée pour la justice, mais c'est quand même révélateur.
D'un manque de moyens, très clairement.
Mais pas seulement. On ne peut pas l'établir absolument. Ça peut être un manque de moyens.
On parle du parquet. Ministère public. Donc c'est les gens qui pour le coup représentent les intérêts de la société et donc généralement qui requièrent des peines assez lourdes. Donc c'est encore une fois c'est pas au stade du jugement.
Ce ne sont pas les magistrats du siège.
Oui. Et encore une fois, on tient que les magistrats du siège sont quand même relativement justes dans leurs décisions. Mais bon, en tout cas, là, c'est encore une fois une erreur, c'est un couac, si vous voulez. Mais il n'y a pas derrière de volonté. Alors après, ça arrive. On entend l'avocat dans ce sujet qui dit ça arrive très souvent. Je ne sais pas si ça arrive très souvent. Ça arrive parfois. C'est vrai qu'il y a des questions de procédure très pointues qui pour préserver les droits des personnes mises en cause par la justice. Il y a souvent aussi des policiers, des avocats qui regrettent que la procédure soit si lourde, mais c'est aussi pour protéger les justiciables. Et ça n'est pas si fréquent que ça, mais ça peut arriver. Oui.
Question bête. Quand on doit signer, quand on est amené à signer un tel document, derrière, il y a, j'imagine, comme en toute chose, dans beaucoup de corps de métier, une relecture, enfin les relecteurs. Peut-être que des greffiers manquaient aussi à l'appel ce jour-là, je ne sais pas.
Non, mais je ne saurais pas vous dire, on n'a pas eu le détail, il se trouve qu'ils se sont rendus compte.
Mais c'est peut-être révélateur aussi, d'accord.
Mais clair, enfin, pour moi, c'est révélateur, effectivement, d'un manque de moyens et sans doute d'une surcharge de travail à un moment donné. Oui.
Bien sûr.
C'est peut-être une question de procédure, parce qu'effectivement, les procédures sont là pour protéger les droits des accusés. Plus que celui des victimes, on voit que les victimes, en revanche, sont quand même très peu protégées dans l'acte procédural. En revanche, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la procédure n'est pas trop tatillonne ou trop bureaucratique ? On sait qu'en France, on a ce souci-là. Quand on a fréquenté les administrations, on sait à quel point les procédures peuvent être à la fois tatillonnes et inutiles. Et paradoxalement, parfois, ne pas interroger sur ce qui devrait être le fond. Là, je pense qu'il faut quand même aussi se poser la question, au-delà des manques de moyens, d'une certaine bureaucratie tatillonne, notamment dans certaines affaires, et rééquilibrer peut-être sur ces questions-là.
C'est la bureaucratie, mais c'est le code de procédure, en fait, c'est ça. C'est une procédure qui est effectivement très complexe.
Peut-être que ce code de procédure est trop lourd. Est-ce que vous êtes pour l'alléger, revoir un peu les choses pour avoir une organisation optimale? On imagine que ce ne serait pas passé.
Il serait convenu, je pense, de l'alléger. Hein. C'est Noémie Schulz, qui est la spécialiste du service police-justice, qui en parlera le mieux. Je pense qu'effectivement, quand on est dans un métier à un tel flux tendu que c'est tellement difficile, qu'il y a une charge mentale tellement explosive dans une situation de chaos social, on peut aussi se dire que ce n'est pas de la nonchalance, ce n'est pas de la désinvolture, c'est simplement que la personne était certainement fatiguée, qu'elle a oublié, alors maintenant on réécrit la procédure, on signe à nouveau et puis la procédure se met en place à nouveau. Mais je pense qu'il y a un vrai, vrai problème de moyens dans la justice et de recrutement surtout.
Allez, on voulait vous en faire part. Merci beaucoup, Noémie. On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de la décision. Il nous avait prévenu hier, il faut le dire, Robert Ménard. Il a pris la décision de ne pas célébrer une union dans sa ville de Béziers. C'était ce matin. Il s'est rendu à la mairie et il a signifié aux mariés que ce serait non pour ce qui le concerne, parce qu'il soupçonne un mariage blanc. À tout à l'heure. Avant d'entamer la dernière partie de notre débat, je vous propose de retrouver Somaïa Labidi pour le rappel des titres du jour. Bonjour.
Emmanuel Macron a rendu hommage au héros Léon Gauthier sur les plages du débarquement. Tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie, a lancé le chef de l'État. Le dernier membre du commando Kieffer, qui avait débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944, est décédé ce lundi à Caen. Assassinat de Samuel Paty, un juge d'instruction enquête sur d'éventuels manquements de l'administration. Le magistrat va poursuivre les investigations qui sont en cours depuis un an sous une enquête préliminaire. On attend que la vérité soit faite, il faut que des investigations se poursuivent pour que l'on sache véritablement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi, surtout, a déclaré l'avocate d'une partie de la famille Paty. Et puis, départ en vacances, le week-end s'annonce chargé sur les routes. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Ile-de-France. La circulation sera dense sur les grands axes routiers français et le sera encore plus demain dans le Grand Ouest, le Nord et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône.
Merci beaucoup pour ces infos. Je vous le disais il y a un instant, le maire de Béziers a donc refusé ce matin de célébrer un mariage. Robert Ménard, qui s'en était déjà longuement expliqué lorsqu'on l'a reçu sur notre antenne hier. Voyons ce qui s'est passé ce matin dans cette enceinte, dans la mairie de Béziers. Maxime Lavandier.
Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervée, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
J'ai dit, votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
Le marié, lui, restait à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage se fera en France ou ailleurs.
On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que 7 mois. Tant que ma femme est avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je me marierai ailleurs, même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
Depuis l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec la ligne dictée par le gouvernement.
Quand j'étais chez le président de la République à l'Élysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie et compte porter plainte contre Robert Ménard.
Sabrina Majeber, sauf que d'ici quelques mois, il devra peut-être s'y soumettre, en tout cas lui ou l'un de ses adjoints.
Moi, je salue la décision très courageuse de Robert Ménard de ne pas avoir célébré ce mariage. Nous sommes dans un état de droit. L'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Donc, ça veut dire que cette personne est en situation irrégulière. Donc, ça veut dire que cette personne n'a rien à faire sur notre sol. Donc, Robert Ménard a été très courageux. Moi, je le félicite vraiment pour cette décision salutaire. J'espère qu'elle va en inspirer plus d'un quand on sait que 90% des OQTF ne sont pas exécutés. Alors, maintenant, ça montrera qu'il y a quand même certains qui font preuve de courage pour pallier à ce manquement ou en tout cas à ce déficit d'obligation d'exécuter les OQTF.
Donc, à ceci près qu'il y aura sans doute une suite parce que le procureur général peut l'obliger à célébrer cette union parce que sa décision, enfin son objection à ce mariage n'entre pas dans le cadre légal aujourd'hui.
Oui, le maire de Chalon-sur-Saône,
Gilles Patret, a
eu exactement la même mésaventure. Il s'est opposé au mariage d'un ressortissant sous OQTF et il a été contraint, après 6 mois de procédure et de mise en garde, sous peine de 75 000 euros d'amende et de 5 ans de prison ou quelque chose comme ça, de devoir finalement célébrer ce mariage. Mais si les mots ont un sens, et effectivement, l'obligation de quitter le territoire devrait être exécutée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les mots sont pipés, d'obligation, il n'y en a pas, ce sont des invitations à tout le mieux de quitter le territoire, et on voit que, quand bien même, elles ne sont jamais exécutées.
3 ans, ça paraît long, mais effectivement, on a affaire à un mur en ce qui concerne l'Algérie, puisqu'ils ne reprennent pas leur ressortissant en ce moment.
Oui, c'est un vrai problème, mais au-delà de ça, ce qui est quand même sidérant, c'est de voir cet homme, tranquillement, qui est sous OQTF, qui a quand même commis des actes de violence, des vols, qui fait comme si on lui avait refusé quelque chose qui était son dû, et qui dit clairement, j'en ai rien à faire de la France,
Même dans une forme de provocation.
De toute façon, je vous obligerai à m'accepter. Et on a un vrai souci, c'est qu'il est fort probable qu'il finisse par gagner. Or, l'honneur, en fait, de la France serait plutôt de soutenir la position de M. Ménard plutôt que de le poursuivre. Et ça, comment voulez-vous que les Français puissent avoir confiance en une classe politique qui, quand eux se retrouvent face à un homme qui pose un acte qui, pour eux, est du bon sens, se retrouve poursuivi par l'État ? Comment voulez-vous avoir
On
a débuté l'émission en évoquant la Convention européenne des droits de l'homme.
On y revient.
L'article 12 dispose que même des clandestins peuvent se marier. Donc c'est là où on est dans un système ubuesque où finalement on est tenu par des règles qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout d'une politique cohérente.
Oui, et de toute façon, effectivement, même s'il était reconduit à la frontière, enfin en Algérie, la politique de regroupement familial ferait qu'il pourrait prétendre à revenir ensuite en étant marié, Céline Pina.
Tout à fait, mais c'est bien ce qu'il dit. quand il dit « je me marierai en Algérie et je reviendrai avec mes papiers ». Mais c'est aussi l'idée que les papiers, c'est un dû. En fait, les papiers, c'est l'accès au guichet unique France, mais ce n'est pas du tout le partage d'une citoyenneté, le partage de principes et de valeurs. Et chez cette personne-là, en tout cas, c'est le cas, et il le dit de façon très claire. Le problème, c'est que chez d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et quand ils viennent en France, ils veulent devenir français, ils veulent les libertés, ils veulent l'égalité. Et on est en train de mettre tout le monde dans le même sac, parce qu'entre les émeutiers et ce type de comportement, les gens bien, ceux qui veulent s'assimiler, s'intégrer, ils commencent peut-être aussi à être regardés d'un drôle d'air. Donc, on perd sur tous les tableaux.
Oui. Et je vous propose d'écouter Robert Ménard à nouveau son désarroi face à la non-application des OQTF. On en discute après.
Moi, je ne veux pas être le bouc émissaire des insuffisances de l'État et des promesses qui sont non tenues. C'est juste ça, mon problème. C'est qu'on nous renvoie à nous devant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. L'État doit appliquer sa loi, faire respecter sa loi, faire respecter ses engagements. C'est la seule chose que je demande. Et si aujourd'hui, je me mets dans cette situation délicate, c'est juste pour attirer cette attention, pour dire, on ne peut pas dire, les maires, ils sont formidables. Vous avez entendu, en ce moment, tout le monde nous tresse des lauriers en nous disant qu'on est formidable. On est peut-être formidable, mais il faut peut-être nous aider un petit peu et pas nous acculer à des situations où je suis obligé de me mettre hors la loi. C'est la seule chose que je veux dire.
Il est là le vrai problème, Raphaël, c'est-à-dire que les manquements de l'État ou en tout cas l'incapacité de l'État central à faire plier les gouvernements étrangers. Et
souvenez-vous, c'était Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles qui s'était engagé en 2019 à faire en sorte que 100% des OQTF soient exécutés. On en est très loin puisqu'on est aux alentours de 10%. Et encore, Gérald Darmanin, aujourd'hui, de manière préférentielle, vise exclusivement les ressortissants clandestins avec des casiers judiciaires longs comme le bras qu'ils cherchent à renvoyer dans leur pays. Et ils n'y arrivent pas. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur les cas les plus difficiles, même sur les cas plus difficiles. Et c'était le cas de l'imam Hussein quand il a voulu l'expulser. C'était un parcours du combattant. Il a fallu des recours et qu'il s'échappe
en Belgique.
En Belgique. Bref, c'est un parcours du combattant. Et aujourd'hui, la parole publique, systématiquement, est prise à défaut et les clandestins sous OQTF se rient bien des grands discours de nos politiques.
Parlons de certains pays, Sabrina Medjibur, certains de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais en ce qui concerne certains pays, il n'y a plus aucune reprise de ressortissants en ce moment.
Alors, déjà, il faut savoir que la délivrance des laissez-passer consulaires algériens est gelée depuis mars 2023, donc comme ça, la messe est dite. Donc Robert Ménard, je pense qu'il va tout faire pour qu'eux, mais ça m'étonnerait grandement que cette personne retourne en Algérie. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'ici en France, on nous accuse d'être des infamants xénophobes, des racistes, voire même des islamophobes, parce que nous sommes contre l'immigration irrégulière. Je rappelle que le président tunisien lui-même avait décidé de refuser l'immigration subsaharienne pour des raisons d'une part de la criminalisation de la société et d'autre part de la déflagration culturelle de son pays. Oui. Le Maroc avait fait la même chose. Mais pour les personnes qui sont de ces origines en France, qui crachent sur la France en permanence, qui se mettent, entre autres parce qu'il y a le délit de clandestinité qui a été complètement aboli par Manuel Valls, donc aujourd'hui ils sont en roue libre dans la société, il faut dire ce qui est. Ces mêmes personnes qui accusent la France d'être raciste ne veulent pas rentrer dans leur pays qu'ils eux-mêmes le disent institutionnellement raciste parce qu'ils n'en veulent pas cette immigration. Donc on se retrouve aujourd'hui acculé dans une position où cet Algérien qui n'a rien à faire sur le territoire ne peut pas rentrer en Algérie que l'Algérie refuse, à l'instar de la saga judiciaire de l'imam Hussein que nous avons vécu l'été dernier, en partie en vertu de l'article 8 de la CEDH, lié au regroupement, au droit à la vie familiale. Eh bien, cette personne ne pourra pas sortir du territoire français, mais elle va rester en tant qu'étranger en situation irrégulière, dans la continuité de ses actes de délinquance et de violence. Et il le rappelait tout à l'heure, on connaît son background. Et ainsi continuera l'histoire tant qu'encore une fois, le politique français n'aura pas le courage d'affronter diplomatiquement ses liens avec l'Algérie. Je rappelle, et je voudrais simplement le souligner, pardon Céline, que l'État algérien, si prompte à s'ingérer dans nos affaires, qui avait appelé dans un communiqué de presse à ce que la France protège ces petits anges. Eh bien, moi, j'aimerais bien que l'Algérie protège ses ressortissants et qu'elle les accueille sans aucune vergogne. Voilà.
Merci pour ce développement. Allez, Céline, en quelques
secondes. Ce qui est incompréhensible, c'est que l'Algérie ne cesse d'envoyer des rebuffades et des humiliations à la France, que nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Eux ont besoin d'eux à la fois parce que l'Algérie n'était pas un État avant que la France la conquière, c'était une somme de tribus. Et aujourd'hui, il n'existe en État qu'en se colletant avec la France. Ils n'arrivent à exister que contre, que s'il y a le miroir de la France pour leur prouver qu'ils existent. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus rien à l'Algérie. L'Algérie ne nous apporte plus rien. Il est temps de mettre fin aux accords qui nous lient. Nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner. Et aucun de nos politiques n'a le courage même de le dire. On se demande bien. Alors, c'est vrai que l'Algérie a largement financé toute une partie de la gauche française. Ce qui explique aussi pourquoi...
Il y a eu des allégeances.
Oui, pourquoi certains présidents élus se précipitaient en Algérie alors qu'on ne voyait pas tellement la raison, mais il fallait rendre à ceux qui avaient beaucoup donné. Mais aujourd'hui, il est temps d'arrêter ces petits jeux et de rompre complètement les liens particuliers qui nous unissent à un pays qui nous traite mal.
Dans un instant,
notre ennemi éternel et traditionnel. Hein. Souvenez-vous de Hachimi Djaboub, ministre des Affaires sociales, qui avait qualifié la France d'ennemi traditionnel et éternel hein, lors d'une audition au Sénat algérien.
Dans un instant, on reviendra à l'actualité de ces derniers jours, avec toujours cette question centrale de la responsabilité que doivent porter les parents dans les agissements de leurs enfants émeutiers. Ça prend plusieurs formes. Il y a différentes propositions qui émanent en particulier de la droite ou du centre. On se penche sur la question dans un instant, tout de suite. Le dernier bloc de notre émission. Depuis plusieurs jours, cette même question est posée aux hommes et femmes politiques. Quelle est la responsabilité? Quelle responsabilité les parents doivent-ils porter dans les agissements de leurs enfants au moment des 6 jours d'émeute que nous avons vécu, et notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les dégâts et de rembourser, enfin de payer la facture. Olivier Madinier, Corentin Briot pour le reportage.
À l'heure du bilan après les émeutes, qui doit payer les dégâts des violences, des casses et des pillages? Une solution divise. Faire payer les parents en les désignant responsables des actes de leurs enfants.
Il faut les toucher au portefeuille, il y a peut-être ça qui va les faire réagir, ou alors leur supprimer les allocs. Ni plus ni moins, mais c'est une histoire d'argent, je pense.
Je trouve que c'est difficile quand même. C'est déjà des familles qui ont plein de soucis, plein de problèmes de gestion. C'est quand même difficile de faire payer les familles. J'ai peur que ça aille beaucoup plus loin après.
Pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, ça doit être aux parents d'assumer les actes de leurs enfants.
Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront.
Un débat qui a aussi eu lieu au Sénat. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été clair sur le sujet. Il ne veut pas incriminer les parents.
On ne veut pas poursuivre les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, qui sont seules, qui élèvent leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté.
Selon le gouvernement, plus d'un millier de commerces ont été touchés par les émeutes, avec des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros.
Alors, est-ce aux parents, à un moment ou à un autre, de payer la facture? Céline?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils sont responsables des actes de leurs enfants. C'est même écrit dans un certain nombre de codes. C'est ainsi. Donc, ils ne peuvent pas se laver les mains de leurs responsabilités parce qu'à un moment donné, leur cher petit ange va leur coûter une fortune en termes de dégâts. Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que vous voyez une société qui doit encaisser tous les fruits de l'absence totale d'éducation ou de jeunes mâles élevés comme des petits prédateurs et des petits caïds et dont on valorise la violence, dont on dit « c'est bien mon fils, tu es un homme ». Et ça, on devrait l'accepter et nous payer derrière. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus possible. Donc oui, il faut mettre en cause les parents. Après, la mise en cause doit être proportionnée. Il est évident qu'on ne va pas demander la même chose à une dame de ménage seule, etc. Je rappelle quand même que la justice, elle juge des individus et des situations individuelles. Mais il n'empêche que même une femme de ménage, parce qu'elle est seule, la société devrait supporter un enfant casseur. Je rappelle que toutes les femmes seules n'ont pas d'enfants qui mettent le feu à la ville et qui pillent des magasins. Il y a y a des gens qui savent très bien élever leurs enfants, même quand elles sont seules. Et ensuite, derrière toute cette histoire, il y a aussi des questions de culture. À partir du moment où vous ne valorisez des cultures de la force et de la violence, vous pouvez légitimement vous retourner vers les parents parce que ce sont eux qui transmettent ces cultures et ce sont eux qui valorisent ce type de comportement.
Mais ça, c'est plus difficile en matière de justice à trancher. Enfin, je veux dire, là, il y a, les histoires de jugement de valeur. On ne peut pas les mettre le nez dans l'éducation de tout le monde.
Oui, mais si vous avez un enfant qui a mis le feu à un magasin, que vous vous retrouviez, par exemple, à devoir payer 15 000 euros de dégâts, ce ne sera jamais le prix de tout ce qui a été cassé. Et que ce choix-là vous pèse dans votre quotidien pendant des années, je pense que c'est la meilleure leçon à donner et il faut arrêter l'indulgence.
Supprimer les allocations, bonne ou mauvaise idée? Bon, puisqu'on parle des moyens de récupérer financièrement.
Très bonne idée. Lorsque Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, avait parlé d'exploser les comptes, moi je m'attendais à ce qu'il parle des comptes bancaires. Et il a parlé des comptes sociaux. Non, effectivement, il a raison. Non, mais bien sûr, il faut toucher au porte-monnaie. De toute façon, comme dit Céline, si vous voulez, ce sont des valeurs d'exaltation de la masculinité toxique, la réelle masculinité toxique qui est fondée sur la conquête et l'honneur, donc, et la violence. Donc, si les parents n'arrivent pas à s'adultifier et à éduquer leurs enfants, certes, l'État ne peut rien faire, l'État ne peut pas se substituer à l'éducation des parents, ça c'est une évidence. En revanche, il est tout à fait capable de les punir au nom des droits qu'ils sont censés exercer envers leurs enfants en vertu de l'article L217-17 du Code pénal. Maurice Berger a fait une tribune hier dans le Figaro. Il a dit qu'en 40 ans d'exercice de pédopsychiatrie, il n'a jamais vu cette disposition appliquée. Et aujourd'hui, on se réveille en disant « Ah, il y a eu des émeutiers, il serait peut-être bon que les parents payent. » Mais il serait peut-être bon que les politiques agissent et fassent payer les parents.
Oui. Je vous propose d'écouter, et je vais vous faire réagir dans un instant, vous pourrez compléter le propos, Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Elle est revenue sur les propositions du gouvernement, parce qu'il y a eu des propositions qui émanaient d'un peu partout, beaucoup de la part des LR, on pourrait revenir aussi. Écoutez ce qu'elle dit sur notamment cette proposition de stage de parentalité.
La justice a un regard toujours très, très individuel sur la situation. Mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue, il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi? À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Et un accompagnement humain, évidemment, qui l'accompagne. Mais ne soyons
pas... Et des sanctions.
Et où sont les pères? Bien sûr. Évidemment, des sanctions.
Pour les familles qui ont déjà du mal parfois à joindre les deux.
Sanctions, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mmh. Mais on va être très clair. Quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits. Eh bien, nous avons aussi des devoirs.
Déjà, moi, un stage de parentalité, il va falloir qu'on m'explique ce que c'est. Je veux bien en prendre un, s'il le faut. Enfin, je sais pas, on est tous perfectibles aussi. Non, mais est-ce que ça marche, ça, franchement?
J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai en mémoire les propos d'Hugues Moutou, le préfet de l'Hérault, qui a dit « deux claques et au lit ». On sait que ça a fait un tollé, mais la vérité, c'est que c'est certainement plus efficace que des stages de parentalité. Après, moi, je souscris à tout ce qui a été dit sur ce sujet, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne. C'est que le chef de l'État, Gérald Darmanin, à son tour, a dit qu'il y avait 30% parmi les prévenus, les mises en cause, qui étaient mineurs. Et on fait quoi des 70%? Moi, ce que je sais des témoignages que j'ai eus, c'est que parfois, c'était en famille que les gens pillaient. C'était l'enfant, les parents et les grands-parents qui pillaient. Il y a des images, il y a des vidéos qui tournent, des directeurs de magasins qui peuvent l'attester. Donc, moi, je veux bien qu'on s'acharne à essayer d'avoir une réponse.
Je ne sais pas si c'était la majorité non plus.
Mais ça existe.
Ouais. Mais ça a existé. Bon.
Ça existe. Mais je veux bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de voir comment on peut faire avec cette jeunesse qui est perdue, qui n'est plus éduquée. Mais il y a les parents aussi. Il y a les parents qui ont une responsabilité immense, et pas seulement parce que ce sont les parents de ces enfants, mais parce qu'eux-mêmes ont participé pour partie à ces pillages.
Il y a de la complaisance ou de la complicité ou vraiment...
Mais regardez aussi la façon dont, par exemple, le présentateur qui interroge Sarah El-Haïry...
Ah oui, dans sa manière de poser les questions, il est très...
Oui, mais
très orienté quand même.
Voilà, il lui dit à un moment donné, mais enfin, on ne va pas sanctionner des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, donc vous vous dites, en fait, l'excuse sociale, donc à partir de quelle absence de revenus, vous avez un bon à piller, à brûler à voler.
Mais ça, je crois que c'est l'argument de Sandrine Rousseau, non ? La pauvreté qui pousse
à. Oui, mais en fait, cette question-là, elle est quand même extrêmement pernicieuse parce que de la même manière, vous avez énormément de gens dans la difficulté sociale. Oui,
c'est un peu indécent pour ces gens-là.
Qui élèvent bien leurs enfants et qui se comportent très bien.
C'est partir du principe que quand on est pauvre,
exactement,
on est forcément
une mauvaise personne. Exactement, et je trouve que ça, cette vision-là, elle n'aide pas.
Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, punchline, bien évidemment. On passera le flambeau et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures.